Chapitre 13. Toute la journée, ceux que Nietzsche appelait les spectres s'affairaient dans les bâtiments obscurs de Rogang. Pour illuminer le grand palais, ils avaient allumé partout des torches, des lanternes et des bougies. Alors qu'aucun rayon de soleil ne pouvait filtrer des issues scellées, murées ou calfeutrées, les hommes et les femmes au teint pâle se déplaçaient furtivement. La tête levée, Nietzsche sondait les ombres de la voûte, là où les chapiteaux des colonnes disparaissaient dans les ténèbres. La précédente, Cora lui faisait traverser de grandes salles dont les murs étaient couverts de lichens.
« Pourquoi es-tu venu ici ? » demanda-t-elle. « Depuis des lustres, les voyageurs évitent au Rogang. Qu'est-ce qui t'a amené chez nous ?»
Derrière Cora, la jeune Asha enchaîna.
« Tu es venu par les montagnes ? Nos chasseurs nocturnes ne t'ont pas aperçu, nos sentinelles non plus ?»
D'autres spectres suivaient le mouvement, leurs vêtements gris bruissant au rythme de leurs pas. Quand ils parlaient, c'était à voix basse, comme si leur langage était uniquement composé de murmures.
« Je n'ai pas traversé les montagnes, » répondit Nietzsche. « La Schlieff m'a déposé. Puisque vous vivez depuis si longtemps ici, vous connaissez sûrement son puits. »
Les spectres murmurèrent nerveusement pendant que Cora réfléchissait à sa réponse.
« Nous avons entendu parler de la créature de vif argent, mais aucun de nous ne l'a vue. On dit qu'elle s'est endormie 1000 ans avant l'avènement de Kurgan. »
« Cette Schlieff a été créée pour transporter les espions et les saboteurs de l'empereur Sulakan, » dit Nietzsche, « longtemps avant la naissance de Crowdfer. C'est moi qui l'ai réveillée. Je voulais retourner à Ildaka, mais elle m'a abandonné ici. Pendant notre voyage, quelque chose d'étrange est arrivé. Elle croit que je l'ai trahi. »
En conséquence, la créature risquait de ne plus jamais répondre aux appels de la magicienne. Une idée qui lui glaçait les sangs. La Schlieff très probablement ne reviendrait plus.
« Mais je dois rejoindre mes amis. Une guerre fait rage et je ne peux pas rester ici. »«
Encore une guerre ?» demanda Cora.
« Il y en a toujours une en cours. »
Nietzsche sur les talons, la vieille femme entra dans une salle immense. Sur tout le périmètre, de gigantesques colonnes soutenaient la voûte. La salle du trône de Crocs de Fer ? C'était bien possible.
« Ildakar n'est pas près d'ici, »
fit Cyrus soupçonneux.
« La Schlieff t'aurait emmené si loin ?»«
Elle m'a conduite à Serimundi sur la côte, et même à Tanimora. Ces villes sont bien plus éloignées d'ici qu'Ildakar. Pour les créatures de vif argent, les distances ne sont rien. Mais si je ne réussis pas à la rappeler, je n'atteindrai pas ma destination à temps. Ildakar subit un siège. Pour ce que j'en sais, elle est peut-être déjà tombée. »«
Si nous pouvions quitter Rogang, » dit Cora, « nous ferions tout pour t'aider, mais... l'honneur nous impose de ne pas bouger pour contenir les Is. »
Autour du petit groupe, des spectres allaient et venaient, certains émergeant de couloirs et d'autres s'y engouffrant.
« Combien êtes-vous ? »
demanda Nietzsche. Des centaines d'hommes et de femmes avaient fondu sur elle pour tenter de la capturer. Devant les portes des bâtiments, elle avait vu au moins autant de spectres. Au combat, pouvait-il constituer une force puissante ?
« Nous sommes très nombreux, » répondit Cora. « Mon peuple vit dans les bâtiments, mais aussi dans les catacombes, et même dans les grottes au cœur des montagnes. En d'autres termes, nous sommes partout, mais sans nous montrer. »
Dans la grande pièce, les torches les plus éloignées faisaient penser à des yeux brillants au fond de la nuit. Le palais de Kurgan regorgeait d'ailes, de salles et même de sous-sols, mais l'obscurité empêchait de prendre la juste mesure des choses. Ce palais n'était pas le seul bâtiment somptueux de Rogang. À son apogée, Crocs de Fer avait accablé la population d'impôts. Recourant au travail forcé, il avait fait bâtir une série de monuments à sa gloire. Au bout du compte, ses sujets l'avaient éliminé, mais les fabuleuses structures résistaient au passage du temps. Durant la journée, les spectres vaquaient à des occupations tout à fait normales. Montant de grandes salles communes, Nietzsche reconnut le claquement des métiers à tisser, le crissement des limes et le grincement des scies. Partout, des artisans fabriquaient des meubles et d'autres objets utiles. D'autres tissaient ou filaient, alimentant des légions de couturières. Dans ce secteur du palais, on parlait aussi à voix basse, mais l'humeur était plus à l'optimisme qu'à l'angoisse.
« Comment nourrissez-vous la population ?» demanda la magicienne. « Dehors, j'ai vu des silos et des entrepôts. Vous cultivez la nuit ?»«
Il suffit de semer, » dit Cora. « La lumière du jour et la pluie se chargent du reste. En revanche...
Le labourage et les récoltes sont des activités nocturnes. Pour la viande, nos chasseurs sont excellents. Bref, nous subvenons à tous nos besoins.
Mais il y a plus que ça,
intervint Asha, enthousiaste.
Nos principales cultures sont souterraines. Viens, je vais te montrer.
La jeune femme franchit une arche puis s'engagea dans un escalier dont elle dévala les marches d'un pas léger. Après quelques minutes, elle déboula dans un sous-sol obscur. Un autre escalier, étroit et oppressant, conduisit Nietzsche, Cora et Cyrus dans une salle souterraine aux murs de roche couverts d'une mousse à l'aspect charnu qui émettait une lumière bleue surnaturelle. Dans l'air, Nietzsche capta une odeur musquée qui n'était pas seulement désagréable. 10 spectres, dont plusieurs enfants, allaient et venaient le long des parois. Munis de paniers, certains récoltaient la mousse couleur crème tandis que d'autres répandaient du paillis en guise d'engrais. Asha préleva un morceau de mousse, le glissa dans sa bouche et sembla ravi par son goût. Tandis que Cyrus restait muré dans sa morosité, Cora s'anima nettement.
« Nous cultivons cette mousse qui est notre arme principale contre les Is. C'est grâce à elle que l'essaim n'a pas tout envahi. »
Occupés à remplir leur panier, deux gamins s'offraient en douce une petite dégustation. Cyrus aussi goûta la mousse, mais comme si c'était une corvée.
« Nous en consommons chaque jour pour en imprégner notre peau. Ça nous aide à travailler. »
S'avisant qu'elle avait l'estomac vide, Nietzsche fit mine de prélever un peu de la surprenante culture.
« Pas toi, magicienne !»
s'écria Cora en lui bloquant le poignet au vol.
« Tu ne dois pas en ingérer !»
Nietzsche s'écarta de la paroi.
« Je ne vous comprends pas, décidément. »
La vieille femme eut un sourire conciliant.
« Nous t'expliquerons tout, ne t'inquiète pas. »
Cora recueillit de la mousse dans sa paume, l'écrasa et montra la bouillie à Nietzsche.
« Sens-la !»
La magicienne obéit. L'essence développée par son don, elle capta sous l'odeur a priori appétissante des relents chimiques qu'elle n'avait pas remarqués jusque-là.
« Quand on n'y est pas accoutumé, cette mousse est mortelle. Autant que les violettes tueuses que tu connais sûrement, une bouchée suffirait à t'empoisonner. »
À la lueur irréelle de la mousse, Nietzsche vit des hommes et des femmes venir prélever leur ration quotidienne. Elle remarqua que les morceaux manquants repoussaient très vite, comme si elle assistait à la scène en accéléré. En mâchouillant, les spectres sortaient aussitôt de la salle.
« Cette mousse nous rend mortels pour les Is, »
reprit Cora.
« Pour la supporter, il faut s'y prendre dès l'enfance en augmentant très progressivement la dose. Au bout d'un moment, nous sommes entièrement emplis de poison, le sang compris, évidemment. »«
Quel que soit ton pouvoir, » grogna Cyrus, « tu n'y survivrais pas, magicienne. »
Nietzsche avait déjà ingéré du poison, involontairement, mais elle n'avait aucune envie d'essayer celui-là, surtout après son voyage éprouvant dans la Slif.
J'ai besoin de restaurer mes forces, pas de m'affaiblir. Si je ne réussis pas à rappeler la Slif, un long voyage m'attendra, en supposant que je retrouve mon chemin.
Nous savons où est Ildakar,
dit Cora.
On te montrera où traverser les montagnes et quelles pistes suivre. Je connais même les villes côtières que tu appelles Serimundi et Tanimura, mais nos données géographiques sont anciennes.
Si vous n'avez jamais quitté Orogang, comment savez-vous tout ça? Cette ville est coupée du monde depuis des siècles.
Cora eut un sourire énigmatique.
Ça ne signifie pas que nous ayons oublié.
Sortant de la serre souterraine, Cora guida Nietzsche, Asha et Cyrus dans une aile au niveau du sol qui reliait le palais à un autre grand bâtiment. Au bout d'un couloir, elle entra dans une sorte de parlement où des rangées de gradins circulaires entouraient une zone munie de lutrins, l'endroit idéal pour des débats publics et des prises de bec légendaires. Au centre de l'arène, en principe pacifique, une imposante table reposait sur des pieds aussi gros que des troncs d'arbres. Dessus, on trouvait une grande carte en relief de l'ancien monde minutieusement détaillée. En terre cuite, cette merveille était peinte avec toutes les couleurs naturelles requises. À croire que les montagnes, les plaines et les cours d'eau avaient été miniaturisés pour tenir sur cet espace réduit. Aux quatre coins du meuble, des lanternes illuminaient le paysage comme en plein jour. Jusque-là, Nietzsche avait consulté des cartes partielles de l'ancien monde. Là, il était représenté dans son intégralité, de la côte jusqu'aux plus lointaines montagnes. Cora posa un doigt au centre d'une chaîne de pics traversée par des cols et des passes difficiles d'accès, mais également sillonnée de pistes impériales très praticables.
Dans cette cuvette-là, c'est Orogang, le centre de l'Empire de Kurgan. »
Du même index, Korra traça un itinéraire qui passait par la crête de plusieurs montagnes en direction du sud, puis qui descendait vers des vallées irriguées et de vastes plaines. Suivant du regard les rivières, Nietzsche vit qu'elles se rejoignaient pour former la source du fleuve Chasse-Corbeau. En le longeant, on arrivait à une autre mégalopole, Ildakar. De là, le fleuve serpentait jusqu'à l'estuaire où il se jetait dans la mer. Ildakar localisée, la magicienne n'eut aucun mal à reconstituer le chemin que Nathan, Bannon et elle avaient fait depuis Surplomb du Monde pour gagner les hauteurs de Kolader. Sans aucune peine, elle repéra le point de départ de leur long voyage, Rendaz-sur-Bey, une des nombreuses agglomérations côtières qui se dressaient sur le chemin menant à Sirimundi puis à Tanimura.
« Cette carte très ancienne a été créée sur ordre de l'empereur Kurgan, » dit Korra. « Ayant ordonné à Outros de conquérir le monde, il entendait savoir à quoi ressemblerait son futur empire. »«
Le général reviendra un jour, » assura Cyrus, rayonnant de ferveur.
« Souviens-toi des antiques prophéties. Nous attendons depuis si longtemps qu'il est peut-être mort, mais... »
Nietzsche choisit cet instant pour surprendre son monde.
« Non, Outros est bien vivant, au contraire. » Des siècles durant, les sorciers d'Ildakar l'ont gardé prisonnier d'un sort de pétrification, comme ces hommes. Mais c'est terminé. Tous se sont réveillés.
Cyrus parut emballé par la nouvelle. Mais Nietzsche doucha son enthousiasme.
Du calme, mon ami. Outros n'a rien d'un sauveur. Même si Croc de Fer est mort depuis des lustres, le général entend conquérir l'ancien monde en son propre nom. Ne t'attends pas au retour d'un héros.
Les légendes se sont transmises de génération en génération.
Cyrus se redressa, torse bombé.
Outros est un grand homme. Selon les prophéties, il reviendra pour nous secourir.
Les légendes, c'est bien joli. Mais moi, je l'ai combattu, ton héros. Je sais quel dégât fera son armée et combien d'innocents mourront à cause de ses ambitions. Tu devrais craindre son retour, pas l'espérer.
Je crois que j'ai envie de croire.
Explosa Cyrus. Très calme, Korra tira sur les plis de son manteau gris.
« Moi, je me méfie des légendes aussi bien que des prophéties. Cyrus, nous nourrissons des espoirs fallacieux depuis trop longtemps. Tu as oublié les fadaises au sujet de Croc de Fer, les fables qui le présentaient comme un noble et juste empereur. Tout ça, c'était des mensonges. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'en va pas de même pour Outros ?»«
Ce que je sens au plus profond de moi !»
s'écria Cyrus.
« Ma foi ! Parce que les prophéties, je les crois !»
Chez les fanatiques de l'ordre impérial, Nietzsche avait trop souvent vu la même ferveur aveugle matinée d'intolérance. À une époque, elle avait même fait partie des élateurs de Jagang, envers et contre coup, y compris ce qu'elle subissait dans sa chair. Se tromper, elle, impossible. Il avait fallu que vienne Richard pour que ça change.
« Moi aussi, je connais la vérité, » dit-elle,
« que tu le veuilles ou non. »